Nous sommes dans l'évangile de Luc, on continue cette étude, ça fait un petit moment qu'on est dans Luc. Et j'étais intervenu avec vous au mois de janvier, on va attendre la diapositive parce que je ferai une petite synthèse. J'étais intervenu au mois de janvier pour parler, c'était Luc 9 à l'époque, on a pas mal avancé. Et donc aujourd'hui on doit traiter la fin du chapitre 14 et le début du chapitre 15. Alors ce que je vous propose... On va tout de suite ouvrir nos Bibles, on va lire le texte et puis on fera le petit rappel le temps que le PowerPoint s'installe. Donc Luc chapitre 14 à partir du verset 25 à 15-32. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Je lis dans la version La Colombe. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense, pour voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever ». Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Chapitre 15, donc. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. » Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. » « Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la. » Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour qui tu as tué le veau gras, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Amen. Voilà, donc le texte proposé aujourd'hui à notre étude a été découpé en deux grandes parties, en fait. Il y a la fin, un petit peu, du paragraphe... ah oui, tu m'as donné la télécommande. Il y a la fin du paragraphe qu'on a vu. Voilà. Il y a la fin du paragraphe qu'on a vu. Je vous présente ce plan que je vous avais déjà présenté pour l'étude de Luc 9. Hein. Les deux grandes parties, hein, jusqu'à Luc 9, 51, on a la présentation de l'identité de Jésus. Qui est Jésus, hein? Pierre le confesse comme le Messie. Et puis à partir de là, il y a un tournant. Jésus prend la décision d'aller à Jérusalem et il va se focaliser plus sur l'identité et la caractéristique des disciples. Donc on a vu toute une série d'études sur cette identité du disciple. Et on arrive ici à une fin. Souvenez-vous, quand on avait commencé l'identité du disciple, il a commencé par présenter qui n'était pas son disciple, et notamment ces espèces de trois pseudo-disciples qui viennent. Il y en a un qui vient qui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répond « Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Puis il y a celui qui veut aller embrasser son père, il y a celui qui veut aller embrasser ses parents, celui qui veut enterrer son père. Donc voilà, Jésus est très clair là-dessus. Le disciple, il a des caractéristiques, et il y en a qui ne le sont pas. Et il termine donc la fin du chapitre 14 par justement un appel à l'engagement du disciple. Donc on ne va pas traiter cette partie, parce que ça a été traité il y a 15 jours par David Buck, très en détail. Hein, et ça va nous permettre de nous concentrer sur le chapitre 15, qui est un chapitre un petit peu intermédiaire et qui est tout à fait spécial. Alors à la fin du chapitre 14, on a vu que le vrai disciple, c'est celui qui renonce à tout ce qu'il possède. Et Jésus va renforcer cette affirmation en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc c'est vraiment une manière de renforcer. Le vrai disciple, c'est renoncer à tout ce qu'il possède. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit tous devenir des franciscains, faire vœu de pauvreté, vendre tout ce qu'on a? Je pense que ce n'est pas ce que dit Jésus. C'est plutôt, puisque ici, si on fait la somme de ce que tout le monde possède ici, ben, on n'a pas renoncé. Donc personne ne serait disciple. En fait, je crois que ce que Jésus voulait dire, c'est l'état d'esprit du disciple qui doit être prêt à renoncer, qui ne doit pas être attaché à ce qu'il possède. Comme disait l'apôtre Paul à un moment donné, « J'ai appris à vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. » L'apôtre Paul, et à un moment donné, ça allait bien, puis à un moment donné, il était vraiment avec rien. Eh bien, il faut qu'en tant que disciple, qu'on soit prêt à abandonner les choses. Et je pense qu'il y a des disciples ukrainiens aujourd'hui qui ont dû abandonner des choses. Il y a des Ukrainiens qui sont partis avec des valises, uniquement leurs petites valises. Moi, mon grand-père est venu il y a 100 ans, il était ukrainien, il est venu après la révolution russe, il est venu avec une valise. Donc, si on n'apprend pas, ici-bas, à renoncer à ce qu'on possède, bah, on va vivre un deuil tout le temps, parce qu'on va toujours penser, comme la femme de Lot qui regardait en arrière, on va penser à ce qu'on abandonne en arrière. Si je ne suis pas attaché émotivement, émotionnellement à ce que je possède, je peux posséder ces choses et rendre grâce à Dieu qu'il me les donne, en sachant que demain, il peut me les enlever. Demain, on peut avoir une guerre sur notre territoire et on peut tout perdre. Est-ce qu'on est prêt en tant que disciple à laisser ça, en sachant qu'on a les choses aujourd'hui, qu'on peut en jouir et qu'on rend grâce à Dieu pour ça? Vous voyez, c'est ça l'état d'esprit du disciple, si je veux vraiment résumer ça. Alors, donc on avait vu donc les caractéristiques du vrai disciple, et dans ce texte, donc, on va se focaliser sur une série de paraboles maintenant. une série de paraboles uniques qui vont nous faire comprendre un certain nombre de vérités fondamentales. Alors, et cette parabole, vous la connaissez, c'est écrit dans vos Bibles, elle s'appelle la parabole du fils prodigue. Et je pense que c'est une parabole qui n'a jamais aussi mal porté son nom. Parce que si on regarde et qu'on lit ça avec un filtre qui est donné par l'éditeur, hein, parce que la Bible originale, il n'y a pas les chapitres, etc., il n'y a pas les titres. Mais si on regarde ça avec le titre, la parabole du fils prodigue, ben on va bien sûr avoir un biais dans l'interprétation, on va voir des choses justes, mais on va manquer plein de choses. Donc on va essayer d'aller, c'est une parabole que plein de gens connaissent, on va essayer d'aller un peu derrière le rideau pour voir ce que Jésus réellement voulait dire par la bouche de Luc. Parce que Jésus a une intention. Et en tant qu'étudiant de la Bible, on doit, quand on lit, toujours se poser la question, quelle est l'intention de l'auteur? Pourquoi est-ce que l'auteur a écrit ça? Pourquoi il a mis ça dans cet ordre? Pourquoi il a cité cet exemple? Pourquoi là il donne du détail? Pourquoi là il ne donne pas de détail? Pourquoi les choses sont répétées? Vous voyez? Et pour comprendre donc le vrai sens du passage, eh bien, on va essayer de se poser ce type de questions. Alors, le plan pour aujourd'hui, je vais faire un petit rappel rapide de contexte, et puis on verra que c'est une parabole qui est très narrative. C'est une parabole très narrative qui n'a pas de morale. C'est une histoire. Donc, il va falloir qu'on l'étudie très attentivement, on va l'expliquer, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans, on va faire, je vais lâcher un terme très compliqué, hein, qui signifie explication, on va faire l'exégèse, d'accord ? Et puis après, on va voir comment on peut interpréter ça, qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est une histoire, il n'y a rien de plus qu'une histoire, hein, il y a un père, il y a deux fils, il y a... c'est facile à comprendre, hein, on suit, on comprend tout à fait les enjeux, on se représente, la fête, les anneaux, les chaussures, etc. Mais on va voir comment interpréter ça, qu'est-ce que Jésus a voulu dire, et puis on va faire une double application. On va voir comment est-ce que les gens de l'époque pouvaient se l'approprier, et nous, ensuite, on va voir comment nous, on va pouvoir se l'approprier, par rapport à notre époque. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui comme plan. Donc ça, on l'a déjà vu. Et on va reposer cette question encore aujourd'hui, c'est qui mon disciple? C'est ça la vraie question. Qui est mon disciple? Parce que le disciple, ce n'est pas forcément celui qui est présent ici ce matin à l'église. Même s'il y a beaucoup de disciples ici. Je ne sais pas si tous les gens qui sont là sont des disciples. En tout cas, vous êtes présents. Ce n'est pas les gens qui ont une Bible. Ce n'est pas les gens qui vont régulièrement au culte, qui font toutes les études bibliques. Il y a d'autres critères bibliques pour définir un disciple. Et on va voir ce matin, notamment, deux types de disciples. Un peu plus en détail. Alors, il y a trois paraboles successives ici dans ce passage. D'accord ? Trois paraboles successives avec toujours le même schéma qui est appliqué. Il y a un état initial qui, on va dire, est stable. D'accord ? Bon, par exemple, un berger qui a un troupeau complet et qui fait paître ses brebis. C'est ce qu'on appelle l'état stable. Et puis après, il y a une déstabilisation. Il y a une perte. Et puis cette perte entraîne une mise en mouvement, une action de restauration, plus ou moins importante. On verra de quelle manière. Et puis, il y a des retrouvailles. Quand on a perdu, à un moment donné, on retrouve. Et ces retrouvailles sont accompagnées de joie. Ça tombe bien, c'est le thème du jour. Je pense que c'est tout à fait un hasard. Je plaisante que Aurélien a choisi ce thème, qui est un super thème. Et puis, cette joie se traduit souvent par une fête. Parce que la joie, elle peut être intérieure. Tu l'as dit, Muriel, la joie, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit intérieur qui nous vient du Saint-Esprit, qui n'est pas lié aux circonstances, mais qui souvent se manifeste et doit se manifester, c'est biblique, par des manifestations extérieures. Et Dieu, dans la Bible, il avait notamment rythmé l'année du peuple juif par une série de fêtes. Il y avait trois fêtes majeures où le peuple montait à Jérusalem, et puis il y avait d'autres fêtes et d'autres encore qui se sont surajoutées, comme Pourim, on a fêté ça il n'y a pas longtemps, enfin les juifs ont fêté ça il n'y a pas longtemps. Et puis, la dernière, dans les paraboles, il y a une morale associée. Et on verra que ce n'est pas tout à fait le cas, parce que la troisième parabole, la plus longue, il n'y a pas de morale associée. Et on verra pourquoi, parce qu'il y a une intention derrière. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Luc répète trois paraboles successives pour indiquer la même chose? Par exemple, quand on lit dans le livre de la Genèse, le pharaon qui fait un rêve que Joseph interprète, Joseph lui dit, si le rêve s'est répété deux fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, qu'il se hâtera de l'exécuter. Donc, quand on répète deux fois, c'est déjà une parole de Dieu, c'est beaucoup. Enfin, c'est fiable, on peut compter dessus, mais deux fois, ça veut dire que c'est... Voilà. Hein. D'ailleurs, Jésus, souvent, il commence ses propos par « en vérité », hein, qui veut dire « amen, amen ». Donc, en vérité », on insiste deux fois, mais là, trois fois. C'est bizarre, ça doit nous interpeller dans l'analyse du livre. Donc, il doit y avoir une raison pourquoi cette troisième parabole est là. Et puis, c'est cette troisième parabole qui va focaliser notre attention, bien sûr, parce que c'est la plus détaillée, et c'est une parabole extrêmement structurée. Luc, ici, fait un chef-d'œuvre vraiment d'écriture. Quand on dissèque cette parabole, presque verset par verset, on ne va pas le faire aujourd'hui, parce que ce n'est pas le propos, mais je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre de rédaction. C'est magnifique, quoi. Il n'y a que le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible qu'un journaliste écrive un truc comme ça. Luc, il avait un esprit un peu journaliste, mais ce n'est pas possible d'écrire ça sans le Saint-Esprit. Alors, pour bien comprendre cette parabole, il faut qu'on chausse ce matin des lunettes orientales. Parce qu'on ne peut pas, avec nos mentalités occidentales, on ne peut pas comprendre complètement cette parabole. Donc, on va essayer très brièvement de chausser ces lunettes occidentales. Alors, dans ce contexte culturel, il faut déjà savoir que le but de toute société humaine, tout groupement humain depuis l'histoire de l'humanité, c'est d'inciter ses citoyens aux bonnes actions et de les faire renoncer aux mauvaises. C'est le bien et le mal, d'accord ? Le but donc de toute société, c'est d'inciter les citoyens à faire des bonnes actions et à renoncer aux mauvaises actions. Mais il y a une différence entre le monde occidental et le monde oriental. Et le peuple juif faisait partie de ce qu'on appelle la culture orientale. Alors, dans les systèmes occidentaux, ce sont des cultures qui sont plutôt basées sur la notion d'innocence et culpabilité. C'est-à-dire, c'est le bien ou le mal. J'ai bien fait, j'ai mal fait, je suis coupable, je suis innocent. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est assez binaire, c'est assez manichéen. Et puis les sociétés occidentales dont nous faisons partie sont des sociétés plutôt individualistes. Ce sont des sociétés du droit, comme la société romaine de l'époque. Les Romains avaient ce type, c'est eux qui ont inventé le droit, hein, et c'était eux qui occupaient la Palestine. Donc il y avait, au-delà de l'occupation, il y avait un choc culturel. Et donc, dans ces sociétés individualistes, basées sur le droit, basées sur le bien et le mal, les lois et les codes sont intériorisés par l'individu. Et quand ils sont intériorisés, c'est la conscience de l'individu qui l'interpelle. C'est un peu le Jiminy Cricket, là, vous savez, qui se met sur l'épaule et qui vous tapote quand... voilà, hein, c'est la notion de culpabilité. Ça explique pourquoi il y a des criminels, des années après, qui se rendent, parce que les consciences les travaillent tellement, même s'ils ne sont pas convertis. Hein. L'apôtre Paul dit bien, d'ailleurs, hein, leur conscience en rendant témoignage dans Romains 1. Et donc... pour éviter donc une transgression, eh bien on a la conscience qui va nous retenir. Dans les sociétés orientales, dans les sociétés hébraïques, ou dans certaines sociétés africaines aussi, hein, on a des frères et sœurs africains parmi nous, le contexte est tout à fait différent parce que... Ah mince, bah oui, mais je ne l'ai pas sur le PowerPoint, je l'ai modifié tout à l'heure. Ce n'est pas grave, il faut m'écouter. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? D'accord ? Dans le contexte oriental, ce sont des sociétés plus communautaires. Au lieu d'être basées sur l'opposition, la dichotomie, le manichéisme, c'est plutôt basé sur l'harmonie. On fait cohabiter plusieurs idées. C'est le « et ». D'accord ? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste une culture différente. Et les sociétés orientales, c'est des cultures de l'honneur et du déshonneur, qui est beaucoup plus important. Donc la motivation principale d'un individu, ce n'est pas sa conscience, ce n'est pas faire bien le bien et le mal, c'est la crainte de se déshonorer ou de déshonorer sa famille et sa tribu. C'est ces notions d'honneur. C'est pour ça, par exemple, que quand dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, quand Dina, la fille de Jacob, se fait violer, Ruben et Siméon, ils partent se venger, quoi. Il y avait cette notion, cette loi du talion, qui fait que l'honneur de la famille a été bafoué et il faut aller laver l'honneur. Et donc, ce qui est important, c'est non seulement le déshonneur, l'honneur et le déshonneur, la honte qui est liée avec, mais c'est la notion d'être vu et pas vu. Parce que si je suis déshonoré, mais si je suis pas vu, je m'en fiche. Par contre, si je suis vu, alors là, c'est cata. D'accord ? Donc, comprenez, d'un côté, il y a l'honneur, le déshonneur, la honte et la peur d'être vu, et de l'autre côté, il y a le bien, le mal et l'individualisme. Et dans les sociétés orientales, on agit mal quand on ne satisfait pas aux attentes de la communauté. Et donc c'est la communauté, finalement, qui va interpréter le code de conduite. Ce n'est pas une loi, c'est la communauté qui interprète le code de conduite. C'est pour ça, par exemple, que les pharisiens étaient verts de rage vis-à-vis de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils les coinçaient. Ils les coinçaient, par exemple, pouvons-nous payer l'impôt à César ? Ils voulaient le piéger, lui, et Jésus retourne tellement bien la question qu'ils se trouvent bouche bée, ils ne peuvent rien dire. Et là, c'est terrible pour eux, parce que dans une culture du déshonneur, publiquement, ils sont déshonorés. Ils perdent la face. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, au début du chapitre 14. Regardez, on l'a vu la dernière fois. Est-il permis d'opérer une guérison pendant le sabbat ? Et verset 4, ils disent, ils gardèrent le silence. Puis il leur dit, lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ? Et ils ne furent pas capables de leur répondre à cela. C'est terrible pour eux, parce qu'en public, ils se font humilier. Ils sont déshonorés en public. C'est pour ça qu'ils veulent le crucifier derrière. Parce qu'ils sont déshonorés, on est dans une culture orientale. Donc dans cette culture, ce n'est pas la conscience qui punit l'offenseur, mais c'est la communauté qui le punit par l'intermédiaire de la honte. Et donc, dans ce contexte, pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce que, imaginez dans ce contexte, ce qui se passe avec le fils et le père, c'est tout bonnement honteux. C'est complètement honteux. Le fils, déjà, qui part, mais ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Il part, et en plus, il ne part pas comme ça en claquant la porte. Ça arrive, des enfants sont partis en claquant la porte. Moi, j'ai une sœur qui est partie à 18 ans, elle a claqué la porte de la maison. Bon, après, elle est revenue, etc., mais elle est partie, elle n'a rien demandé à personne. Là, il part et il demande l'héritage. Demander l'héritage à l'époque, c'est comme si le fils disait « je te tue ». Parce que Paul, quand il parle aux Galates, hein, il dit tant que le testament il est valable quand une personne est morte. Mais tant que la personne est vivante, le testament il n'est pas valable. Donc demander l'héritage de la part du fils, c'est un arrêt de mort du père. Le fils dit au père, avec les lunettes orientales, je te tue, tu n'existes plus, tu me donnes l'héritage. Vous voyez le contexte. Ça explique aussi le retour, etc. Alors, un autre élément honteux, aller garder les cochons. Animal impur pour le juif, le fils, il tombe tellement bas qu'il est obligé d'aller garder les cochons. À la limite, si l'un d'entre nous était vraiment dans le besoin, s'il faut aller garder les cochons dans une ferme bretonne où il y a des porcheries de 1000 porcs, où ils sont bien isolés, complètement désodorisés, etc., on pourrait le faire, c'est pas terrible, on pourrait le faire. Mais imaginez à l'époque, juif aller garder des cochons. Et puis le père aussi, le père est complètement déshonoré. C'est un homme qui a des serviteurs, c'est un homme d'une certaine importance. Il perd son fils lui fait ça, donc c'est public. Imaginez le village, la communauté, imaginez ce que vit le père. Et puis ce père-là qu'on voit, qui attend, qui veille sur son fils, il a attendu, on ne sait pas combien de temps il est parti le fils, peut-être un an, deux ans, peut-être 10 ans. Et le père, pendant 10 ans, il était là à attendre son fils. Comment on le sait ? Parce que dans la parabole, quand il voit le fils de loin, il commence à courir. S'il était dans son lit à regarder une série Netflix, le père, il ne serait pas en train de courir. Ça veut dire qu'il était aux aguets, on ne sait pas combien de temps. Et puis, à l'époque, pour un père comme ça. Courir, ça veut dire quoi? Ils avaient des grandes robes, hein, ils n'avaient pas des shorts Nike, etc., séchage rapide, dry fit. C'était des grandes robes, il fallait relever les robes, les nouer. Et puis à courir, c'était déshonorant, mais pour un chef de famille, pour un exploitant, c'était honteux au possible. Donc vous voyez, dans ce contexte-là, on a un truc complètement abracadabrant. Imaginez cette parabole dans ces conditions-là. Donc, dans cette parabole, il y a trois acteurs. Trois acteurs. Donc le fils cadet, on a dit, il claque la porte, il est quand même lucide, il se dit, tiens, tant qu'à faire, si je pars, je vais prendre une part. Donc il part, il prend sa fortune, il va la dilapider, il se laisse aller à ses penchants, et il a un comportement complètement insensé, et ça induit des conséquences. D'accord ? Donc quand on décide d'aller vivre loin de Dieu, à un moment donné, il y a des conséquences, il faut le savoir. Il rentre en introspection, il se repent, il reconnaît la bonté du Père, alors qu'il l'avait méprisé, il l'avait craché dessus, il reconnaît ça. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il reconnaît que son péché, il est contre Dieu. Il décide, il se dit, j'irai vers mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. D'accord ? C'est-à-dire que tout péché, il est contre le ciel et, bien sûr, contre son Père terrestre, mais le péché est avant tout un péché contre Dieu. Et David le dit bien dans le psaume 51, d'accord ? J'ai péché contre toi seul. Donc, il se repent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il se met en action. Parce que souvent, on se repent, et puis bon, bah, c'est bon, allez, Dieu pardonne. Mais non, là, il se repent et il se remet en action. Il fait la route. Alors, imaginez le contexte, ce contexte de honte. Imaginez le fils qui passe le village voisin où tout le monde est au courant de son truc. Il le voit passer, les moqueries, les railleries, les rejets, les gens détournent la tête. C'est ça le contexte de l'époque. Il se met en action, il revient. Et là, le miracle se produit. Il est au bénéfice de la grâce du Père. Et ça, c'est vraiment formidable. Malgré la profondeur de ses actions qui sont terribles, eh bien, il est au bénéfice de la grâce du Père. Il ne demandait même pas autant de choses que ça. Il se serait contenté d'être un employé du Père. Et là, dans le texte, le mot employé, c'est vraiment le mot tâcheron, hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est employé pour la journée. C'est un travailleur à gage. Il était prêt à devenir un travailleur à gage. D'accord ? Alors qu'il ne pouvait même pas accéder aux caroubes du Père. Il était tombé tellement bas que même des caroubes, c'est vraiment pas bon les caroubes, hein, mais même ça, il ne pouvait pas l'avoir. Et là, il est même prêt à diminuer son niveau d'exigence. Il est vraiment humilié. Il est prêt à faire ça. Mais la grâce de Dieu, c'est qu'on a toujours plus. Et c'est la définition du mot grâce. Ce fils cadet reçoit la grâce de Dieu. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est complètement gratuit. On l'a dit tout à l'heure pendant la scène, Dieu nous a fait un cadeau en Jésus-Christ. Il nous a donné son Fils parce que nous ne méritions rien. On était condamnés, perdus, on a un cœur mauvais, pourri. Tout l'Ancien Testament nous montre que l'homme est incapable d'obéir à la loi, sans arrêt il retombe. Je suis en train de relire le livre des juges et sans arrêt le cycle recommence, recommence, recommence. Et là, le Fils revient, non seulement il est pardonné, mais il est restauré à son niveau initial. Il n'aurait même pas rêvé de manger des caroubes, il revient, il a des chaussures, il a un anneau, il est restauré au statut de Fils. Ça me rappelle l'apôtre Pierre. À un autre niveau, quand il est tombé très bas, il devait se dire, c'est foutu. Jésus m'avait confié l'église, machin, etc. Je l'avais confessé, ça c'était du passé. Maintenant Jésus est parti, jamais il ne voudra plus me pardonner, c'est fini. Allez les gars, je retourne pécher. D'ailleurs dans le texte, hein, Jean 21, il est dit, Simon, dit à ses disciples, le vieux Simon. Et là Jésus l'attend avec un barbecue, du poisson grillé, et il le restaure. Pierre, paie mes agneaux. Je trouve que c'est juste la grâce de Dieu. C'est formidable. Alors, on va dire un mot du Père. Le Père, c'est pareil. Il a un comportement complètement décalé. Il endosse la honte qui est imprimée par son fils cadet. Et là, il ne dit pas un mot. Il dit rien. Il pourrait être chef de famille. Il aurait pu user les prérogatives et lui dire « Écoute-toi, mon fils, tu retournes au boulot, tu n'auras rien du tout. » Il aurait pu le faire, ça. Il a l'air absent, il a l'air faible, il a l'air très complaisant. Mais il attend patiemment le retour. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il devait attendre des jours et des jours et des jours. Et il rétablit son fils complètement, sans lui poser aucune question. Le fils, comme je vous l'ai dit, il aurait pu juste avoir une place de serviteur, mais non, il reçoit toute la dignité, une bague, des sandales, un festin, une fête. C'est un comportement complètement inexplicable. Sauf si on regarde à Dieu. Sauf si on regarde à Dieu, parce que bien sûr, je vous le dirai tout à l'heure dans l'interprétation, le père de la parabole est l'image de Dieu. Et en lisant cette parabole, vous voyez, les gens me disent souvent, mais Dieu, on ne le voit pas, je ne sais pas qui c'est, etc. Vous lisez la parabole du fils prodigue, vous avez une image de Dieu. Ce n'est pas l'image qui s'imprime dans vos têtes quand vous visitez la chapelle Sixtine, l'espèce de vieillard qui donne son doigt, etc. Vous voyez, ça, c'est des images qui s'impriment. Mais quand on lit la parabole ici des deux fils, eh bien, on voit réellement qui est Dieu, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ses prérogatives, dans son comportement, un truc complètement inexplicable. Mais Dieu, il est incompréhensible, il est inexplicable. La grâce, elle est infinie. Quand on parle de grâce infinie, on chante le chant « Grâce infinie », eh bien, on regarde dans cette parabole, on voit la grâce infinie. L'autre, il demandait, mais juste un serviteur, et il se retrouve avec une bague au doigt. C'est ça, la grâce. C'est une faveur imméritée, et j'en rajoute encore, Dieu en rajoute encore par rapport à ce fils. On pourrait passer un message sur le Père, mais il faut traiter la parabole, donc. Je continue. On va dire deux mots du fils aîné. Le fils aîné, lui, c'est un gars bien. Hein. Il est courageux, il est travailleur, il est toujours obéissant. En fait, c'est un peu le gendre parfait. À le voir comme ça, les gens qui venaient à la maison disaient « Punaise, le fils aîné, le cadet, il devait être un peu rebelle sur les bords. Hein. On ne part pas comme ça du jour au lendemain. C'est un peu l'enfant libre hein, en analyse transactionnelle. » Là, le cadet, l'aîné, c'est le gendre parfait. C'est le travailleur, le courageux. Il n'a jamais amené le déshonneur sur sa famille. Hein. Il était propre sous lui. Tout le monde devait en dire du bien. Il aurait pu postuler un titre d'ancien. Hein. L'ancien, normalement, les gens de l'extérieur doivent en dire du bien. Mais il y a quand même un certain nombre de travers. Hein. Il voit son père. Il a une image complètement faussée de son père. Parce qu'il le voit comme injuste et égoïste. D'ailleurs, dans la parabole, il ne l'appelle pas père. Jamais. Le fils, plusieurs fois, il dit père, 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 père. Là, jamais il l'appelle père. Il est orgueilleux aussi. Il pense n'avoir aucun défaut. Il se permet de juger son frère. Oh, qu'est-ce qu'il ramasse, le frère ? Il est très centré sur lui-même. Moi, je, jamais tu, ne m'as donné à moi, etc. C'est vraiment un propre juste. Et puis en plus, il humilie publiquement son père. Parce que son père lui dit, mais viens, ton fils est revenu, on fait la fête, on est en famille. Non, non, je reste dehors. Il refuse de rentrer. C'est hyper humiliant. Vous imaginez la fête, il ne devait pas être trois pour la fête. Il n'y avait pas le père, le fils et le fils aîné. Il y avait tous les serviteurs, il a dû inviter les voisins, etc. Hein, regardez ce qui se passe quand la femme perd une drachme. Tout de suite, elle invite les voisins, venez. Il y avait cette notion communautaire. On se réjouissait en public, on pleurait en public. Donc il devait y avoir, je ne sais pas, peut-être 100, 200, 300 personnes dans la salle. Tout le monde regarde, il voit le fils aîné refuse de l'entrer. Le père lui demande de rentrer et il ne veut pas rentrer. Mais vous imaginez la honte. Pour l'époque, lunettes orientales. Et il refuse de l'entrée. Alors là, il y a un truc intéressant. Je vous ai dit, on irait un peu dans la structure du texte. Il y a deux ou trois structures en chiasme dans le texte. Je vous ai déjà parlé des structures en chiasme. En fait, à quoi sert un chiasme ? À plein de choses, mais notamment à mettre en évidence une idée centrale. Donc le chiasme, c'est des idées qui se répètent. Vous voyez, A, B, C, D, E, et puis A', B', C', E'. D'accord ? Il y a les idées, les couleurs, ça va avec. D'accord ? Donc, là, j'ai focalisé sur le chiasme du fils aîné. C'est très intéressant parce que, je vous dis, ce fils aîné, il a cette parabole, enfin, cette sous-parabole du fils aîné, elle a plusieurs caractéristiques. Premièrement, elle est incomplète. Vous voyez ? J'ai mis les points d'interrogation en bas parce qu'elle s'arrête là. Hein ? Le texte s'arrête un peu brutalement, mais il fallait bien se réjouir et s'égayer car ton frère, que voilà, est mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Comme je vous ai dit, cette troisième parabole, elle n'a pas de morale. Les deux premières, il y a une morale. Il y a de la joie dans le ciel pour tout pécheur qui se repent, etc. Là, il n'y a pas de morale. Donc on va voir quelle est la morale. Et puis, la deuxième chose, je vous ai dit, le chiasme, ça permet de mettre en évidence l'idée clé du passage. Et l'idée clé du passage, c'est celle-là. Son père sortit pour l'inviter à rentrer. Donc, le centre de ce chiasme du fils aîné, le message que Luc veut faire passer, que Jésus veut faire passer au travers de Luc, c'est son père sort pour l'inviter à rentrer. Il y a vraiment ce mouvement vers l'extérieur pour dire « viens ». Il est bien dit « invité ». Il n'est pas dit « son père sort, le prend par le colbac et l'amène à l'intérieur pour laver son honneur ». D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Son père sort pour l'inviter à rentrer. Alors on va... Je ne sais plus ce que j'ai mis dehors, derrière, là. Ouais. Il y a un deuxième chiasme, on verra ça tout à l'heure. Il y a un deuxième chiasme ici, c'est ce que j'ai appelé le chiasme du père. Donc vous voyez, là, c'est la notion de donner et de ne pas donner. D'accord ? Donc, le fils, il demande quelque chose, personne ne lui donne de caroube. Le fils cadet, il n'a pas reçu de chevreau. Et le père donne, hein, c'est une note que j'ai rajoutée, littéralement, et je te le donne. Tout ce que j'ai est à moi, et je le donne. Là, encore une fois, dans ce chiasme, quelle est l'idée centrale ? L'idée centrale, c'est donner un anneau à sa main. C'est-à-dire, c'est vraiment la notion de restauration. Et voyez, là, on est dans l'explication de la parabole. On est dans l'exégèse. Mais tout de suite, vous commencez, je pense, à voir quelles sont les idées derrière. Qu'est-ce que Jésus veut faire passer comme idée là derrière ? Donc on va voir comment est-ce qu'on peut interpréter cette parabole au vu de tout ce qu'on a dit. Donc dans cette parabole, bien sûr, le Père représente Dieu. Vous avez bien compris. Et les deux fils, finalement, ça représente les deux facettes d'une humanité. Si je généralise. Il y a d'un côté l'humanité dépravée qui ignore Dieu, c'est bien sûr le fils cadet, et de l'autre côté, il y a l'humanité religieuse, celle qui croit connaître Dieu, qui croit servir Dieu, qui est dans la maison, entre guillemets, au sens large de Dieu, mais qui a un comportement comme le comportement du fils aîné. Alors, quelle est l'intention de Jésus ? Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner là ? Déjà, il faut interroger le contexte pour bien comprendre. Parce que Jésus est très sensible à son environnement. Je vous ai dit, il est dans une phase où il parle du discipulat. Et Jésus savait saisir les occasions. Quand il est dans un champ de blé, il fait une parabole sur le blé. Quand il traverse une vigne, il va parler « Moi, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Donc Jésus utilise les circonstances. Regardez ce qui se passe. Au chapitre 14, verset 25. Prenez vos Bibles, je n'ai pas eu le temps de l'afficher parce que j'ai dû vraiment travailler ce texte et je n'ai pas eu le temps de faire un truc très détaillé au niveau du PowerPoint. Au verset 14-25, il nous est dit « De grandes foules faisaient route avec Jésus ». Donc, comme les foules sont là, Jésus en profite, chaque fois qu'il a du monde, il les enseigne. Regardez verset 15, chapitre 15, verset 1. « Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre ». Donc, dans cette foule, il y a des péagers et des pêcheurs, des gens de mauvaise vie, etc. Et puis, regardez au verset 2, « Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Donc Jésus, dans son environnement, il a une grande foule, il a des pêcheurs d'un côté, et il a des religieux, des pharisiens, des scribes qui critiquent. C'est bizarre ça. Le fils cadet, qu'est-ce qu'il fait ? Le fils aîné, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il en met plein la louche au fils cadet. Donc Jésus, il a, je vous ai dit, les deux faces d'une humanité, la face dépravée et la face religieuse. Jésus, il a ce public face à lui. Donc il choisit son enseignement. Alors il va commencer soft, il va commencer par la réjouissance, et puis il va donner cette parabole dite du fils prodigue, que j'aimerais mieux appeler la parabole des deux fils, ou si vous voulez, on peut l'appeler la parabole du père compatissant, on pourrait l'appeler de différentes manières, mais en tout cas, il faut l'appeler en connaissance de cause, sinon je mets des lunettes. Si je l'appelle parabole du père, je ne vois que le père. Si je l'appelle fils prodigue, je vois que le fils prodigue. Or, le message clé, peut-être, n'est pas tant le fils prodigue, parce qu'il a déjà parlé, deux fois il a parlé de ce qui est perdu, la brebis, la drachme, bon, bah, c'est d'accord, tous les gens qui se sont éloignés de Dieu, on a plein de gens ici qui, dans leur famille, ont eu des enfants qui sont partis, qui se sont éloignés, revenus ou pas revenus. On a tous ces exemples-là. Mais si on focalise un peu plus sur le fils aîné, vous voyez, on est dans un contexte où Jésus, il a le public parfait pour pouvoir donner un enseignement. Alors là, c'est pareil, je l'ai fait à la main, je suis désolé, mais regardez les enchaînements de mots là. Jésus a parlé de l'engagement coûteux du disciple. Et il y a une conjonction là, mais, conjonction de coordination, mais il y avait, et ça c'est 15.1, vous voyez, les petits mots dans la Bible ont vraiment de l'importance. Mais, alors, dans la Bible ici, elle n'y est pas. Dans le texte grec, il y a une conjonction de coordination, hein, je vous le confirme, même si dans la version n'y est pas. D'accord ? Mais les péagers et les pêcheurs, d'accord ? De même, les pharisiens, et il y a encore un mais. Et Jésus, derrière, il leur dit, mais il leur dit cette parabole. Donc vous voyez, il y a un enchaînement au début du chapitre 15, et c'est ça la beauté du texte, c'est que Jésus prend cette occasion pour... Alors le mais, il exprime quelque part une opposition, une différence, ou bien une précision, ou une correction, voilà, il apporte quelque chose de plus. Donc cette succession de mais et de même, il y a trois conjonctions, vous voyez, ça permet de voir ce que Jésus va aborder. Et Jésus va aborder ce sujet de perdu et retrouvé, d'une part sous la forme des deux paraboles, et d'autre part sous la forme de c'est qui est perdu, c'est qui est retrouvé. C'est ça en fait, l'un des éléments clés de cette parabole, qui est perdu et qui est retrouvé. Alors, ces paraboles sont une réponse, quelque part, au murmure des pharisiens et des scribes, mais aussi de l'intérêt de Jésus pour les pêcheurs. Pourquoi les pêcheurs venaient ? Parce que Jésus les aimait, ils étaient avec eux, les pharisiens les repoussaient, Jésus était avec eux. Donc Jésus va s'adresser à ces deux populations avec un message différent au travers de cette parabole. Cette parabole, en fait, elle parle aux pêcheurs, qui leur dit quelque part, vous avez fait des erreurs. C'est ça le message. Vous avez fait des erreurs, vous êtes pêcheurs, mais mon père, qui est représenté par ce père dont je vous parle, mon père vous attend. Et Paul reprendra en Éphésiens 2.8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par ce que vous faites, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est le scandale de la grâce, hein, qui sera repris en Matthieu 20. Donc ça, c'est le message aux perdus. Mais à ceux qui pensent être dans la maison, à ceux qui sont religieux, qui se disent, moi je lis ma Bible tous les matins, je viens à toutes les études bibliques, je viens à tous les cultes, je fais tous les congrès KF, je fais les séminaires IBG, je lis Évangile 21, etc. À ceux-là, il leur dit, attention, parce que peut-être vous êtes en dehors de la fête. Donc les deux fils sont perdus en fait. Le cadet, il est perdu dans le mensonge d'une vie sans Dieu. Il se ment à lui-même jusqu'à ce qu'il prenne conscience. Il est loin en faisant le mal et il vit dans le péché. Mais l'aîné aussi est perdu. Il est perdu dans le mensonge d'une moralité sans Dieu. Il critique son frère sans s'apercevoir que lui aussi est dans un triste état. Donc cette parabole du fils aîné, elle est pour ceux qui croient être proches en semblant faire le bien, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont aussi loin du Père et peut-être dans un triste état. Et moi, j'ai été repris par cette parabole, parce que je me retrouve dans le fils aîné. Quand je critique, quand je grogne, et demander à mon épouse, c'est vrai, je critique et je grogne, Et je me retrouve dans cette parabole. Et moi, j'ai été repris en étudiant cette parabole. Mais vous voyez, il faut descendre très très loin pour comprendre ce que Jésus voulait dire. Et l'attitude du Père, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle préfigure de celle de Jésus sur la croix. Parce que c'est l'apôtre Pierre qui nous a dit, méprisant la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je crois que c'est Hébreux qui dit ça, pardon. Jésus a connu la honte. Il est mort nu, il a été flagellé, il a été pendu au bois, c'était une malédiction. Donc Jésus a méprisé la honte, il a subi la honte. Donc cette attitude du Père de la parabole préfigure l'attitude du Père céleste qui va sacrifier Jésus en le faisant passer pour un criminel, quelqu'un de honteux, de pas fréquentable. Et le Père de la parabole ici, il est prêt à subir cette honte. Il est prêt à aller sur la croix. Jésus est prêt à laver les pieds. C'était honteux d'aller laver les pieds. C'est les esclaves qui le faisaient. Jésus a fait ça. Jésus était prêt à aller manger avec les pécheurs. C'était une honte. Jésus était prêt à toucher un lépreux. Ça ne se faisait pas. Ça rendait impur. Donc, ce Père, finalement, c'est l'image de Jésus dans la parabole. Alors, comment on peut l'appliquer ? J'avance parce que le temps passe. Comment est-ce qu'on peut l'appliquer ? Ben, c'est facile pour l'époque. D'accord ? Jésus est venu chercher et sauver les deux extrêmes. Il est venu chercher les perdus, mais il est venu chercher les religieux, les publicains et les pécheurs, mais il est venu chercher aussi les pharisiens. Et puis, il y a également, quelle est l'application pour tous ? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'image que Jésus, au travers de cette parabole, veut donner du Père, les caractéristiques de ce Père. Et on voit qu'il y a un changement de dispensation, parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était le Dieu terrible, la montagne du Sinaï toute fumante. Mais là, on voit Dieu comme le Père compatissant qui attend son Fils pendant des années jusqu'à ce qu'il revienne. Un Père qui préfère prendre le risque de l'amour. Vous savez, l'amour, il donne la liberté. Donc, le risque de l'amour, c'est de laisser partir le Fils, même s'il sait qu'il va se planter. C'est ensuite de l'attendre des années et des années pour qu'il revienne. Bien sûr, le Père, je vous l'ai dit tout à l'heure, il aurait pu avoir la certitude de la contrainte. Si je contrains, ben, c'est bien, quoi. J'ai pas de problème. Mais le Père a pris le risque de l'amour. Il n'a forcé personne. C'est pour ça que le chiasme du Père, il est marqué. Il l'invita à rentrer. C'est ça le message. C'est que Jésus invite tous ceux qui sont dehors à rentrer à l'intérieur. Dehors parce qu'ils sont partis très loin. Ou dehors parce qu'ils croient être dedans, mais qu'en réalité, ils sont dehors. Et c'est un véritable appel à sonder nos cœurs. Cette image du Père qu'on va retrouver dans Matthieu 20, la parabole des ouvriers embauchés à la dernière heure, où le Père sans arrêt, il sort, il va chercher des ouvriers, il les invite, il leur promet un denier, etc. On voit ce changement de dispensation dans le Nouveau Testament, ce Père qui est proche. Hein. Dans l'Ancien Testament, c'était le propriétaire qui était loin. Et puis, en Jean 15, « Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Dieu est le vigneron, il rentre dans la vigne, il taille les sarments, il est proche de nous. Il s'approche et il veut nous faire avancer, parce que c'est un Dieu proche. C'est ça le Dieu du Nouveau Testament. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, le chiasme est incomplet. Pourquoi est-ce que le chiasme est incomplet ? Le chiasme du Fils aîné. Voilà, parce que la réponse, elle est restée aux pharisiens. L'invitation, le Père sortit pour l'inviter à rentrer, et la réponse, Jésus la laisse en suspens. Donc certains pharisiens, comme Nicodème, ils ont fait la réponse. Ils ont pris la réponse, ils sont rentrés. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des clous, et ils l'ont crucifié. Alors physiquement, c'est pas eux, c'est les Romains, parce qu'ils n'avaient pas le droit. Mais ils ont crié « crucifie-le ». Ça a été la réponse des pharisiens. C'est terrible. Alors c'est une parabole au second degré. Les pharisiens, est-ce qu'ils l'ont compris, pas compris ? Hein? Jésus dit, Dieu dit, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à vous et à vos enfants. Il faut chercher à comprendre la réalité des choses. Donc les pharisiens ont complété le chiasme, mais malheureusement ils l'ont mal complété. Donc la question que je vous pose, c'est comment vous allez compléter ce chiasme? Quelle sera votre réponse? Parce que finalement, cette parabole, elle nous parle à nous. Elle nous parle parce que je suis quelque part ces deux fils à la fois. Je peux être à la fois le fils aîné, un peu rebelle, peut-être certains d'entre nous ont été rebelles, peut-être certains d'entre nous sont rebelles aujourd'hui, ils sont loin du Père, ils sont en train de se poser des questions, ils n'ont pas de carrousel, ils sont en train de garder les pourceaux. Eh bien pour cela, la Bible dit, mais vous pouvez revenir au Père, parce que regardez comme il est compatissant. Il ne va pas vous juger, il a un anneau pour vous. L'anneau, c'est la couronne de vie, c'est la vie éternelle. Et peut-être que vous êtes là comme le fils aîné. Vous êtes en train de maugréer, vous êtes en train de critiquer. Vous êtes là depuis très longtemps, mais vous êtes à l'extérieur de la maison. Ben, cette parabole est aussi pour vous. Et elle a été pour moi parce que j'ai été très repris là. Donc à quelle personne est-ce que je ressemble le plus en ce moment? C'est une question que je vous pose. Et la Bible nous dit, et tout à l'heure Aurélien l'a vu, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont tous gratuitement justifiés. Il suffit de rentrer dans la maison. Le Père, là, compatissant, nous invite. Voilà. Et finalement, cette parabole illustre un petit peu ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est toujours un chemin, alors je l'ai représenté large, mais c'est un chemin qui est relativement étroit entre une vie dissolue du fils cadet et une vie légaliste, pharisienne, du fils aîné. Et finalement, notre rôle, c'est d'être équilibré. C'est de ne pas trop nous approcher ni d'un côté ni de l'autre. C'est de nous interroger, est-ce que je suis dans le légalisme à droite? Est-ce que je suis religieux? Est-ce que je suis critique? Ou est-ce que je suis plutôt dans la licence? Est-ce que je suis plutôt dans le laisser-aller? Ah oh, bah oui, de toute façon, tout est grâce, je n'ai pas besoin de m'en faire, Jésus, de toute façon, il pardonne tous les péchés, même si je tombe, je peux venir à lui, venez à moi, blablabla, enfin, je me fais tout un film. La vie chrétienne, c'est une vie équilibrée, mais ce n'est pas une vie facile à vivre. Et j'ai mis conclusion, attention aux faux discipulats. On peut très très vite devenir religieux, par des traditions, par des rites, en oubliant ce qu'est la réelle grâce de Dieu. Donc Jésus, plusieurs fois, nous appelle à la vigilance. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, on va prier. Notre Dieu, merci pour cette parabole, merci pour cet enseignement. Tu es un Dieu merveilleux, vraiment, tout ce que tu nous as laissé dans ta parole, quelle richesse. Seigneur, je te prie pour cette église, pour tous ces bien-aimés qui sont là. Que tu parles à chacun, Seigneur, en fonction de là où il est. Tu vois, ce n'est pas facile, Seigneur, de vivre cette vie chrétienne. Nous sommes soumis à tant de tentations, de difficultés. Mais parfois, nous sommes peu vigilants, peu disciplinés. Je t'en demande pardon, Seigneur, pour cela. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces enseignements. Aide-nous à comprendre cette parole. Aide-nous à peut-être revenir à toi. S'il y a besoin de repentance, Seigneur, aide-nous à... Oui, vraiment revenir à toi.